En tout cas, c'est bon de vous voir. Puis, j'étais impressionné. Il y a du monde en avant dans la première rangée. Bravo! C'est super. J'espère que je ne projetterai pas trop de... T'as des lunettes! OK. En tout cas. Oh! Vous savez, quand on... Je veux dire, avec ce qui a été partagé par les chants, les prières, la grandeur de notre Dieu, je vais vous dire, ben franchement, je me sens pas mal petit d'être ici en avant. Là. Puis, même pendant un des chants, je tremblais. Je tremble encore un peu. Parce que pas parce que j'ai peur, parce que Dieu est bon, Dieu prend soin de moi, mais d'avoir la responsabilité de partager de sa parole, ça, en tout cas, ça me fait trembler. Puis. Mais en même temps, je trouve ça un privilège parce que c'est une occasion d'apprendre davantage qui Dieu est afin de pouvoir mieux réaliser qui il est et pour pouvoir le louer davantage, pouvoir l'adorer davantage, pouvoir le servir davantage. Puis, Dieu veut continuer son travail dans chacune de nos vies. Puis, c'est à savoir, est-ce qu'on est prêt à le laisser faire, à le laisser agir, à le laisser nous transformer pour être de plus en plus comme il voudrait qu'on soit. C'était pas ça mon message, là. En tout cas, c'est tout bien d'y aller parce qu'il y a encore deux. Il y a des feuilles, puis si vous avez besoin des crayons, il y en a en arrière. Si vous n'en avez pas, faites signe, les placiers vont vous... à moins que vous ayez déjà fait ça pendant que j'étais absent. En tout cas. Alors, prions, s'il vous plaît. Et Père éternel, merci que tu es tellement grand, majestueux, hors de l'ordinaire, sans pareil. On peut pas vraiment saisir, comprendre avec nos faibles moyens, mais ça n'empêche pas que c'est une réalité que tu existes, que tu es le créateur de tout, que tu es le souverain. Puis malgré le fait que tu aurais pu garder tes distances à cause de notre péché, tu t'es abaissé jusqu'à nous en ton Fils Jésus-Christ pour nous secourir, pour nous délivrer par l'entremise de son sacrifice à la croix. Et merci que tu nous offres en lui, par la foi en lui, le moyen d'être réconcilié avec toi, d'avoir la vie, la vraie vie, celle que tu avais donnée à nos premiers parents. Père éternel, merci de ton amour, de ta grâce, de ta miséricorde. Et merci de ton esprit, de ta parole. Merci qu'on peut prendre ce temps ensemble et que tu puisses continuer ton œuvre. Parle-nous. Que nos cœurs soient disposés à recevoir, à comprendre et à mettre en pratique. Au nom de ton Fils. Amen. Qu'est-ce qu'une confession de foi? Il y a la plupart des églises en ont une. C'est une déclaration des croyances partagées par une communauté de croyants. Une confession, c'est un aveu. On y déclare nos croyances. Puis elle devrait être basée sur ce que Dieu a révélé dans sa parole, la Bible. Les vérités qui s'y trouvent devraient être le fondement de notre vision du monde, de notre manière de percevoir le monde, la manière qu'on va vivre notre vie, notre philosophie, les principes. Ces vérités, nous devrions les accepter, y adhérer, dans le but qu'elles soient, si on peut dire, l'orientation et qui alimente nos pensées, nos paroles, nos actions. Sur la feuille que vous avez, si vous ne saviez pas, on en a une confession de foi ici. Quand on demande, on considère de devenir membre, bien, on doit prendre connaissance de la confession de foi, puis, si on peut dire, prononcer, oui, j'adhère à cette confession de foi-là. Et c'est pour ça que je veux devenir membre de l'Église. Mais même si on n'est pas membre, dans un sens, on a chacun d'entre nous, même si on ne l'a pas par écrit, on a une confession de foi. On a des principes sur lesquels, des vérités sur lesquelles on vit, où on se comporte, qu'on pense, qu'on agit. Alors, c'est pas obligé d'être un document, on dit légal. On a chacun une confession de foi. Mais, juste pour vous mettre dans le contexte, eh bien, selon la confession de foi de l'Église évangélique baptiste de la Lièvre, je vous présente deux articles. Premièrement, la Bible. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu complète, que les 66 livres tels qu'ils ont été écrits à l'origine comprennent l'Ancien et le Nouveau Testament, furent inspirés verbalement par l'Esprit de Dieu et furent entièrement libres d'erreurs, que la Bible est l'autorité finale en toute matière de foi, de pratique et la vraie base d'unité chrétienne. Et le prochain article, c'est sur la personne de Dieu. Nous croyons en un seul Dieu, créateur de toutes choses, saint, souverain, tout-puissant, éternel, sage, juste, bon, existant en trois personnes égales, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Naturellement, dans une confession de foi, on pourrait élaborer chacun de ces sujets-là, puis en dire beaucoup plus. Mais au moins, c'est pour nous aider à cibler ou en tout cas se concentrer sur ce qui est l'essentiel. Mais ces croyances-là devraient nous servir à nous identifier et à nous unir. C'est qu'on est d'accord qu'on croit ces choses-là, puis on veut s'encourager à croire ces choses-là, puis s'assurer que c'est basé sur la parole. La dernière fois que je prêchais, on avait vu certaines vérités concernant Dieu qui se révèle. Dieu se révèle dans la création étant comme ordonné, constant, intentionnel. Et ces vérités que Dieu nous révèle dans sa parole, c'est dont on prend conscience, qu'on avec son aide, qu'on saisit, qu'on cherche à comprendre puis à mettre en pratique, eh bien, devrait faire une différence dans notre quotidien, dans notre vécu, dans nos relations, on va dire, les uns avec les autres, avec le monde. Puis, c'est ce que Dieu veut voir qui se produise dans chacune de nos vies, que sa parole, sa vérité fasse une différence. Et Dieu s'étant révélé dans la création comme étant ordonné, constant et intentionnel, eh bien, nous amène, c'est un tableau qu'il y a beaucoup de détails, là, mais c'est juste pour vous rappeler, on a vu que Dieu est complètement distinct de l'humanité puis des anges. Il est complètement d'une catégorie à part. Il est distinct de sa création. il ne fait pas partie de sa création. Et étant celui qui a tout créé dans sa souveraineté, dans sa grandeur, dans sa majesté, il est digne d'être glorifié, d'être honoré. Le glorifier, c'est ni plus ni moins le vanter. Par des paroles, des actions, des attitudes, c'est le révérer, l'honorer et le tenir en haute estime pour qui il est. Dans la première partie de la Genèse, Dieu, on a vu la dernière fois qu'il a créé, je n'irai pas là tout de suite, la lumière, l'atmosphère, la terre, la mer, la végétation, les corps célestes et les animaux. Et tout ce qu'elle a créé, eh bien, son verdict, son évaluation, c'était bon. Tout était parfait. Il n'y avait aucun défaut. Il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de mort. Dans le récit du sixième jour, parce qu'on a vu juste la première partie quand il crée le règne animal. Mais le sixième jour, dans la deuxième partie, on a le point culminant de l'œuvre de Dieu, de sa création. Puis, c'est qui d'autre que l'homme et la femme, l'être humain. Et c'est ce qu'on va considérer ensemble ce matin, se pencher un peu sur cet aspect-là. Alors, ce qu'on veut voir ce matin, ce que je propose de traiter avec vous, d'aborder, c'est que Dieu nous a créés pour le refléter, pour dépendre de lui, pour se soumettre à lui. Alors, premièrement, Dieu nous a créés pour le refléter. Dans les versets de Genèse 1, 26 à 28, ça nous donne un aperçu de la création de l'être humain. Puis Genèse 2 va rajouter certains détails sur la manière qu'il a créé l'être humain. Et on voit qu'il y a une suite. Il a d'abord créé l'homme, puis ensuite la femme. Puis, je vous invite à, dans un sens, à vous imaginer qu'on est dans la présence de Dieu au tout début. Puis là, il y a un caucus divin. OK? Ils ont déjà créé ce qu'on a vu jusqu'à date. Mais là, il se propose de créer l'être humain, l'homme et la femme. Puis dans ce caucus-là, on lit selon Genèse 1, 26, puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Pourquoi est-ce que Dieu se donne la peine de nous révéler qu'est-ce que c'est qui a été dit lors de ce caucus divin? Bien, c'est peut-être parce que Dieu voulait nous aider à prendre conscience de la valeur, de l'apogée de sa création. Ce qui lui était le plus cher, le plus précieux. Il était pour créer des êtres qui étaient d'une catégorie à part du reste de sa création, même s'ils étaient aussi faisant partie de sa création. Et là, au verset suivant, dans Genèse 1, 27, nous lisons « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Seuls les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu. Puis être créé à l'image de Dieu, puis à sa ressemblance, bien, ça ne peut pas se rapporter à notre corps physique, parce que Dieu est quoi? Il est esprit. Il est invisible. Alors, comment est-ce qu'on peut être à l'image de quelque chose, puis de ressembler à quelque chose qui est invisible? Il faudrait que je sois invisible, qu'on soit tous invisibles. Alors, ça ne doit pas être ça, hein? C'est que Dieu est esprit, n'ayant pas de corps. Alors, créer à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est d'être créé avec un esprit et une âme. Notre corps est le contenant de notre vrai moi. C'est le côté physique du côté qui n'est pas physique, qui est immatériel. On a dans Genèse 2:7 l'attention est portée sur la création d'Adam. Et ça dit, « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. » Et on lit dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Dieu a fait l'homme, il a insufflé le souffle de vie dans une forme faite de poussière. Puis, une fois que ce souffle de vie a été insufflé, cet amas de terre est devenu un être vivant. Mais, ayant été créé pas juste physiquement, mais avec un esprit, une âme, eh bien, c'est ce qui différencie l'être humain du règne animal. Lorsqu'il a créé les autres créatures, il les a simplement appelées à l'existence et ils sont apparus. Mais ce n'est pas le cas pour l'être humain. Parce qu'on voit, selon le verset 2, Genèse 2, 7, Dieu façonna l'homme avec la poussière. C'est comme si Dieu voulait y mettre une touche personnelle. C'était une création unique et spéciale qui se distinguerait des autres créatures qu'il avait créées. Pourquoi est-ce que Dieu encore nous explique qu'il pose ces gestes-là? Que c'est lui qui façonne, c'est lui qui donne le souffle de vie. Eh bien, c'est sa manière, je dirais, d'exprimer, de chercher à nous communiquer son désir de nous faire comprendre qu'on est important à ses yeux, qu'on a de la valeur à ses yeux, qu'il désire avoir une relation spéciale et unique qu'il n'a pas avec le reste de sa création. C'est pas pour dire qu'il se fout du reste de sa création. Il l'a créé, il en prend soin. Mais pour l'être humain, il y avait quelque chose d'unique et de particulier. Puis, il voulait qu'on en prenne conscience. Alors, une relation avec Dieu, du fait que c'est pas physique, bien, ce n'est possible que grâce à l'Esprit. Et c'est pour ça qu'il a insufflé ce souffle en Adam. C'est pour permettre d'être divinement connecté à Dieu et en même temps les uns aux autres. Et de plus, une des autres caractéristiques des attributs de Dieu, c'est qu'il est éternel. Et ayant donné ou permis à ce que l'homme, l'être humain, ait un esprit, cet esprit-là est, et cette âme-là est appelée à être aussi éternelle. Mettons-nous, pour un instant, si possible, employer notre imagination, une chose que Dieu nous a créée avec. Hein? Pour certains, ils en ont plus que d'autres. Mais quand même, faites un petit effort. Okay? À un moment donné, Dieu rassemble puis il est en train de former un corps. Puis, c'est juste la terre, là. Et puis, c'est comme des enfants qui jouent avec du Play-Doh, là. Je sais pas trop, ils font des petits bonhommes. Mais là, il était un petit peu bon, hein. Un petit peu plus grand. Mais c'est sans vie. Puis tout d'un coup, on prend notre premier respire. Puis, il vient une pensée dans notre cerveau. On ouvre les yeux. Puis, on voit tout ce que c'est que Dieu a créé jusqu'à là. On prend conscience que j'existe. Je ne sais pas, là, moi, je fais juste pas. T'sais. Peut-être c'est plus simple que ça. Peut-être que Dieu il a tout branché ça de même, ça a tout de même fonctionné. Mais quand même, à un moment donné, probablement qu'Adam a réalisé, hey, j'existais pas, puis là j'existe, d'où est-ce que je viens? Puis Dieu se révèle, puis là, qui a parlé en premier, Dieu ou Adam? La Bible ne dit pas, fait qu'elle ne chercherait pas. Mais quand même, c'est que Adam, là, il devient un être vivant, il devient conscient de ce que c'est qui se déroule autour de lui. Alors, l'être humain a une place unique et sans pareil dans le plan de la création de Dieu. Et on voit dans Genèse 1, 28, Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Alors, on voit que Dieu, quand il a créé l'être humain, puis là, moi, il me passe des drôles d'idées par la tête, des fois, là. Mais là, j'ai résumé ça à ceci. Ni idiot, ni bibelot, ni robot. Dieu ne nous a pas créés d'idiots. Il ne nous a pas créés pour être des bibelots. Puis on n'est pas des robots. OK? Parce qu'on voit, il y avait quelque chose en tête. Il était intentionnel dans la création, de sa création entière, mais aussi de l'être humain. Adam et Ève devaient être des représentants, en quelque sorte, et en créant plus de vie, ayant des enfants et remplissant la terre, ainsi la terre, régnant sur le monde physique et en prenant soin, utilisant la création de Dieu pour créer plus de beauté. C'est à remarquer que ce n'est pas aux anges ou aux animaux que Dieu a confié le mandat de le représenter sur la terre, mais aux êtres humains, à l'homme et à la femme. Et pour le faire de manière adéquate, ça nécessite de refléter son caractère, sa personne. On a vu, je reviens à ce tableau, toutes ce qu'on a vu à date sur la personne de Dieu, puis on n'a pas épuisé le sujet. Mais voilà Dieu qui est unique et sans pareil, puis qui crée l'être humain, l'homme et la femme, puis dit, je vous confie une responsabilité, vous allez me représenter, vous allez vous occuper de ma création. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance pour que nous puissions refléter et jouir d'une relation unique et spéciale avec lui. Fondamentalement, c'est notre raison d'être. En tout cas, c'était ça qui était l'intention première de Dieu. Si on revient au fait qu'on est esprit, âme et corps, eh bien, l'esprit, cette partie-là de notre être, de la création de Dieu, c'est que, puisque Dieu est esprit, il nous a donné un esprit. Notre esprit nous permet d'être conscient de Dieu et nous connecte à lui. Notre esprit est notre véritable nature qui est soit vivante, soit morte par rapport à Dieu. Et notre esprit nous distingue des animaux. Ensuite, au niveau de l'âme, puisque Dieu a une âme, il nous a donné une âme. Notre âme nous permet d'être conscients de nous-mêmes et des autres. Notre âme est notre personnalité unique qui nous distingue des autres. Vous avez remarqué, on est différents. Pas juste physiquement, mais notre manière de voir, c'est un peu comme on est chacun comme un flocon de neige, là, différent, distinct un des autres. Puis, il aurait pu tout nous faire pareil, puis on serait tous beaux. Non. Mais en tout cas, ensuite, notre âme nous permet de penser, de ressentir et de prendre des décisions, tout comme Dieu. Mais bien que nous ayons été créés pour refléter Dieu, nous ne sommes pas ses égaux. Nous sommes des êtres créés avec des limites. Dieu, pour sa part, n'a pas été créé, puis est sans limite. Alors, à quoi sert notre corps? Eh bien, c'est un peu l'enveloppe qui contient notre âme et notre esprit. C'est là qu'on demeure pour le moment. Par notre corps, nous interagissons avec le monde physique et nous reflétons Dieu dans le monde qui nous entoure. On peut se demander, mais comment est-ce qu'on peut connecter avec Dieu? S'il m'a créé avec un esprit, avec la possibilité de connecter, mais comment ça peut se faire, ça? Bien, on peut l'illustrer ainsi. Hop, j'ai oublié le dernier, là. En tout cas, pas grave, on va aller au prochain. Ça, il n'y a pas grand monde que ça aujourd'hui, là. Mais pour ceux qui sont un certain âge, mais ils savent que c'est une radio. OK? Une radio est le seul appareil capable de recevoir et d'interpréter correctement les ondes radio qui sont invisibles, qui est dans l'air. Alors, ça a été fait pour capter ces ondes-là qui sont invisibles, afin qu'il y ait une communication, qu'on puisse entendre. Une cafetière puis un micro-ondes, tu peux essayer quand tu voudras de capter des ondes, ça ne marchera pas. À moins que tu aies un petit génie puis que tu es capable de rafistoler ça pour que ça... Dieu est comme celui qui émet des ondes radio. Et notre esprit est comme cette radio, capable de recevoir ces signaux que lui envoie, ce qui nous permet de nous connecter à lui. L'esprit reçoit, l'âme traduit et le corps répond. Une image, si on revient à ce qui est dit là, faite à l'image de Dieu, est une représentation visible d'un original. Bien que nous ne soyons pas des petits dieux, nous sommes le couronnement de la création de Dieu. Nous sommes créés à son image pour être le reflet visible de ce qu'il est et pour le représenter sur terre, afin que notre vie rayonne pour sa gloire. Comment est-ce qu'on reconnaît les enfants en général de la même famille? Ils ressemblent à qui? Aux parents. Puis ça peut être physiquement. OK? Puis. Mais des fois, ça dépasse ça. C'est pas juste le physique. Parce que ça peut être la manière qu'ils vont parler. Les expressions qu'ils vont utiliser, la manière qu'ils vont se tenir ou pas se tenir. Puis là, tu sais, on dit, ben, vous avez déjà entendu l'expression tel père, tel fils, ou peut-être, si on veut le rendre au féminin, telle mère, telle fille. Ben, c'est parce qu'il y a un lien, il y a un rapport. Ainsi, Dieu a créé l'être humain à son image et à sa ressemblance, afin qu'il pense, raisonne et planifie tout comme lui, qu'il ressente profondément et prend plaisir en beaucoup de choses tout comme lui, qu'il évalue, décide et agisse tout comme lui. Il voulait qu'on lui ressemble. Pas physiquement, parce que ça, c'est possible, mais dans ce qu'il est. Et en vérité, Dieu veut que nous vivions connectés à lui. Les anges, les animaux peuvent penser, ressentir et prendre des décisions. Mais ce n'est pas au niveau de l'être humain. Parce que l'être humain a été créé de manière unique et particulière pour être en relation avec Dieu. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ensemble, ont planifié et créé chacun des êtres qu'il a créés. Et en parlant des êtres humains, pour qu'ils soient son reflet et jouissent d'une relation avec lui. Dieu a tout créé, ces gens. Pas juste ceux-là qui sont affichés là, mais chaque être sur la surface de la terre depuis le début, pour qu'il soit à son image et qu'il jouisse de sa personne. Chacun pense, ressent, prend des décisions. Dieu nous a créés pour que nous soyons le reflet qu'il est, notre Créateur. Dieu nous a créés pour dépendre de lui. On voit cela dans Genèse 2, 7 à 9. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Est et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Dieu aurait pu créer toutes choses en noir et blanc. Puis il aurait pu donner le goût à toute nourriture, à tout ce que c'est qu'on mange. Qu'est-ce que c'est que vous n'aimez pas comme goût? Et imaginez-vous que c'est ça, à chaque fois que vous mettez quelque chose dans votre bouche, c'est ça. Hey, pas encore ça. Et non, il avait créé un jardin rempli d'une variété de bonnes choses à manger, à savourer. Chacun était parfaitement formé, sans maladie, sans poison, sans décomposition. Ça ne se gâtait pas. Pas besoin de frigo. Quelle était l'intention de Dieu en comblant ainsi Adam d'une telle abondance? Dieu cherchait à attirer Adam à lui-même. Il démontrait à Adam qu'il désirait qu'il prospère et l'encourager à reconnaître sa dépendance vis-à-vis de Dieu. Il n'a pas juste donné le strict minimum pour que Adam puisse juste survivre, mais une abondance par laquelle il pourrait s'épanouir. Il ne faisait pas juste lui donner des choses pour dire, ben tiens, là, il voulait l'aider à prendre conscience que qui lui donnait cette abondance-là? Son Créateur, qui l'aimait, qui se souciait de son bien-être. Parce que Dieu désire bénir d'une manière ample, avec abondance et généreusement. Et Dieu, même de nos jours, combien, quand vous allez à l'épicerie, là, imaginez-vous s'il y avait juste 3-4 items. Au moins, ça sauverait du temps. Là, il y a tellement de choix, t'es là, puis on le met dans le panier. Non, on le ressort, on en prend d'autres choses. En tout cas, je ne fais pas l'épicerie souvent. En tout cas. Ivy s'occupe de cette partie-là de... Mais l'abondance de Dieu, c'est pour... Mais sa générosité, c'est pour chercher à nous attirer à lui-même. Et c'est ce qu'il voulait faire envers Adam. Lorsque le jeune homme offre des fleurs à une jeune femme, qu'est-ce qu'il cherche à exprimer?
Son amour.
Il désire démontrer, j'aimerais ça, établir une relation. Et puis disons que la jeune femme refuse les fleurs. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur puis dans la pensée du jeune homme qui est allé tout tremblant, là, puis, tu sais, pour... Mais probablement qu'il se sentirait un peu moche, là, blessé, triste, déçu, que son amour a été ignoré. De manière semblable, quand que Dieu donne en abondance ses bons cadeaux, et que nous, non, pas aujourd'hui, peut-être demain, là, mais pas aujourd'hui. Dieu aussi a des émotions, des sentiments. Et on peut tenir pour acquise la provision de Dieu. Comment? Ne pas reconnaître la valeur de la vie que Dieu nous a donnée à chaque personne. Nuire à la création de Dieu en la détruisant, en la polluant, en y jetant des déchets. Utiliser la création de Dieu à des fins nuisibles ou malveillantes. Ne pas apprécier la beauté et la richesse, la riche variété, c'est-à-dire comme des dons venant de Dieu. Ne pas le remercier pour toutes les façons dont il a pourvu et qu'il continue à pourvoir à nos besoins. Ne pas jouir à juste titre d'une relation avec lui. Alors Dieu nous a créés pour que nous puissions dépendre de lui, parce qu'il est le pourvoyeur. Troisièmement, Dieu nous a créés pour se soumettre à lui. On revient à Genèse 2, 7 à 8, qu'on a lu. Comment est-ce qu'on voit dans ces versets la manière que Dieu a exercé son droit de propriété? Remarquez que c'est Dieu seul qui a déterminé chaque aspect de l'être d'Adam. Son apparence, son sexe, sa démarche, ses proportions, sa taille, sa langue, sa culture, sa couleur, puis on pourrait en rajouter. Puis Dieu seul a déterminé où Adam était pour vivre. Son environnement, sa nourriture. Et dans ce sens-là, eh bien, Adam appartient à Dieu, son Créateur. C'est lui qui lui avait donné la vie. Il n'a pas demandé à Adam son avis. Qu'est-ce que tu en penses? Quelle grosseur de nez tu vas avoir? Tu vas avoir trois oreilles ou deux oreilles? J'exagère, là, c'est juste pour... Non, il est le Créateur, il fait ce qu'il veut. Puis du fait qu'il est un Dieu parfait, eh bien, ce qu'il fait est parfait. Là, il vient de passer une autre idée par la tête, en tout cas. Quand Adam a pris conscience qu'il existait, il n'a pas dit, « Oh non, non, ça fait là. » Ça aurait été bien mieux, je n'aurais eu quatre. En tout cas. C'est Dieu qui a le droit de propriété, puis c'est lui qui a créé Adam, qui nous a créés, et c'est envers lui que nous sommes redevables, qu'on aura à rendre compte. Dans Genèse 2, 15 à 17, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Encore là, on voit que Dieu exerce son droit de propriété sur Adam. Dieu demande, a demandé à Adam de travailler, de prendre soin du jardin. Dieu a ordonné à Adam de ne pas manger d'un arbre en particulier. Dieu a déclaré que la mort était la conséquence de la désobéissance. Adam devait se soumettre à l'autorité de Dieu en toutes choses. Alors, Adam, puis en même temps Ève, parce qu'ils ont été créés la même journée, seraient des intendants, on va dire, de ce que Dieu avait créé à ce moment-là. Il leur a confié cette responsabilité. Puis, c'était sous son autorité à lui. Et Dieu s'attendait à ce qu'il passe à l'œuvre, qu'il fasse ce qu'il leur confiait de faire. Alors, on a vu jusqu'à date, et là je saute des étapes parce que mon temps est écoulé, puis je ne vais pas tirer, mais prenons conscience que Dieu nous a créés pour le refléter, pour dépendre de lui, pour se soumettre à lui. Je reviens à la confession de foi parce que, qu'on le réalise ou non, nous avons tous une confession de foi qui s'exprime par notre manière de vivre, par nos pensées, nos paroles et nos actions. Que l'on puisse, avec la grâce de Dieu, avec son aide, de s'assurer que notre confession de foi personnelle soit de plus en plus conforme à ce que Dieu a révélé dans sa parole, la Bible. C'est elle qui doit être notre point de repère pour notre vécu quotidien, pour nous personnellement, au niveau du couple, au niveau de la famille, au niveau de l'Église. Père éternel, merci. Merci que tu nous as créés d'une manière spéciale et unique. Et on te prie que tu puisses nous aider à apprécier cette vérité importante et de réaliser que tu nous as créés pour une raison. C'est pour te glorifier, pour pouvoir être soumis à toi, dépendre de toi, te refléter là où tu nous amènes. Et Seigneur, on a besoin de ton aide et merci que tu as donné ton Fils justement pour que cela puisse être restauré, rétabli, et que tu puisses nous aider en partant d'ici, aujourd'hui, durant cette semaine, à se rappeler de ces vérités et que tu puisses nous aider à les exprimer, à les démontrer par nos faits et gestes pour Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Amen.